Nous sommes dans la deuxième partie, la partie de gauche. Nous avons la semaine dernière étudié la partie de droite et nous avons terminé par le signe distinctif de la Géoula de Pakod Ifkod, c'est-à-dire de l'union entre Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël, la Pekida, c'est en fait le rapport intime entre Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël qui est comparé à une épouse. Et donc lorsque l'époux se souvient entre guillemets de son épouse, il va la rechercher prisonnière dans le château égyptien, comme dans les dessins animés qui ont été en fait des copies fades de ce symbolisme. Et donc le prince va chercher la princesse dans son exil et il la fait sortir pour la rédemption. Bien entendu, cette rédemption n'est pas vide, elle a un avenir, elle a une construction, et l'épouse doit suivre l'époux jusqu'à sa maison. Et ça, c'est le but de l'entrée en Eretz Israël après la traversée du désert. Et c'est d'ailleurs avec cette formule-là qu'Akadosh Baruch Hu apparaît à Moshe Rabbeinu, en lui disant, lorsque vous allez sortir, je vous amènerai vers la terre. C'est le but ultime, car là-bas, nous allons pouvoir construire notre famille, entre guillemets, okay, entre le mari et son épouse, lorsqu'ils arrivent à la maison. Alors ce Pakod Ifkod, c'est un degré double, qui était le secret, et le libérateur d'Israël devait connaître ce secret, parce que les enfants d'Israël devaient entendre Pakod Ifkod. S'il n'y avait pas ce code secret de Pakod Ifkod, eh bien, on n'aurait pas écouté Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu devait avoir ce code qui était gardé secrètement chez les sages d'Israël qui étaient en Égypte. Il devait entendre ce code-là, cette double parole, Pakod Ifkod. Qu'est-ce que c'est Pakod Ifkod? On avait dit que c'était un degré céleste et un degré humain. C'est-à-dire le premier, Pakod, c'est entre guillemets le souvenir de Dieu de l'Assemblée d'Israël. Et Ifkod, c'est le souvenir d'Israël concernant Dieu. Et donc, ça c'est le côté supérieur qui invite, qui induit un côté inférieur. C'est-à-dire que tout commence par Akadosh Baruch Hu, Pakod. Et la deuxième partie, c'est Ifkod, c'est ce que l'élément Israël va faire monter comme des vapeurs de désir et d'amour pour retrouver ce Pakod. Donc Pakod, du haut vers le bas, Ifkod, du bas vers le haut. Et c'est exactement le signe que nous allons avoir dans notre rédemption d'aujourd'hui. C'est la conclusion donc du dernier cours, c'est que lorsque les enfants d'Israël vont sentir que la Géoula est en train de se rapprocher, eh bien, il va y avoir un réveil chez eux de sortir de leur exil, donc de quitter leur Égypte du moment. Donc l'Égypte d'aujourd'hui est symbolisée par tous les pays et par toutes les mentalités dans lesquelles les enfants d'Israël sont tombés, et il va falloir sortir de tous ces exils-là, et au niveau mental et au niveau physique, bien entendu. Et pour sortir de l'exil mental, il faut d'abord quitter l'exil physique, parce que la mentalité d'un pays induit et influence la personne qui s'y trouve. Nous sommes donc dans les Tzehadim Likrat HaGeoula, la partie de gauche, et le Rav va traiter ce sujet en faisant une comparaison avec le mikvé. Ce bain rituel qui s'appelle le mikvé. Mikvé en hébreu veut dire rassemblement. Ken? Rassemblement, d'où vient ce terme? De Bereshit. Dans Bereshit, il y a marqué Yikavu Hamaim Asher Mitachat Lashamaim El Makom Echad Veterae Hayabasha. Yikavu Hamaim, que les eaux se rassemblent pour que la terre apparaisse. Autrement dit, le mot mikvé tire sa source, sa racine dans le mot rassembler. C'est-à-dire trouver une direction. En hébreu, kav. Avoir une direction de vie, avoir un kav. C'est se rassembler. Se rassembler, c'est revenir à l'identité et savoir vers quoi nous allons. Il y a des textes là-bas, vous pouvez les donner à ceux qui n'en ont pas. Donc le mot mikvé va induire aussi le mot tikva. Tikva qui veut dire espoir et espérance, parce que tu as une direction, parce que quelque chose est clair dans la direction, tu as une ligne de conduite, un kav, et donc tu as une tikva, tu es mekavé, donc tu es comme le mikvé. Lorsque vous rentrez dans un mikvé, vous rentrez en fait dans l'unité qui va vous révéler le sens exact de votre identité. C'est ça le but du mikvé. C'est pas de rentrer dans de l'eau, okay, de vous envelopper d'eau, mais l'élément liquide, l'eau, c'est l'élément premier de la création du monde. Donc lorsque vous rentrez dans le mikvé, vous rentrez dans l'initial, vous rentrez dans le premier, vous rentrez dans la mémoire en fait du monde. Et la mémoire du monde est censée vous redonner la direction de la vie que vous devez mener. Et c'est pour ça que l'entrée dans le mikvé doit normalement transformer celui qui rentre. Il va sortir de là-bas unifié, alors qu'il en est rentré éparpillé. Donc, allez au mikvé, parce que l'entrée dans l'eau va vous redonner en fait un degré d'unité, comme si vous venez de naître, parce que vous remontez à la mémoire. Donc, ce n'est pas par hasard que la position de celui qui est dans le mikvé est la position du fœtus. Dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire on rentre dans l'élément liquide, dans le liquide amniotique, Ken, à l'intérieur du ventre de la mère, ici, les parois du mikvé. C'est la même chose. Ken. Justement, je viens de le dire, c'est la position Ken, fœtale, c'est-à-dire vous devez vous replier Ken, comme si vous étiez un bébé dans le ventre de sa mère, en levant les pieds du sol. Naturellement, on revient à cette position parce qu'on a un souvenir, une mémoire intérieure qui nous dicte en fait la position. Et le message, bien entendu, c'est de revenir à l'état initial. Donc je me remets à zéro. C'est comme si je faisais un reset quand je rentre dans le mikvé. Et quand je rentre dans le mikvé, je vais dans un élément qui n'est pas le mien. On est bien d'accord. L'élément du mikvé, c'est de l'eau. L'homme est incapable de vivre dans de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'il fait en réalité quand il rentre dans l'eau? Il va un peu mourir. Donc, si l'homme meurt en rentrant dans l'eau, il ressort comme la résurrection des morts, comme quelqu'un qui vient de renaître. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tu viens d'utiliser un terme un petit peu de Kabbalah. Quand on rentre dans le mikvé, on enlève les clipotes. Les clipotes, c'est les écorces qui étouffent entre... Qui font un barrage entre l'homme et le divin. C'est comme s'il y avait une écorce qui sépare l'homme de son identité divine. Donc en enlevant cette séparation, en enlevant cette écorce, cette clipa, eh bien on est complètement perméable au contact avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le mikvé rend pur. Qu'est-ce que c'est pur? Qu'est-ce que c'est l'inverse de pur en hébreu? Tamé. Nachon, tamé. Tamé, comment vous traduisez tamé? Imperméable. Ken? Atum. Et pas impur, ça ne veut rien dire impur. Ken? Impur, c'est un mot, mais vous ne pouvez pas comprendre. Donc moi, je vous traduis avec les mots exacts de l'hébreu pour que vous puissiez comprendre la racine du mot. Donc tamé vient du mot aleph, tête même, atum, qui va donner naissance au mot metumtam, imbécile, c'est-à-dire bouché. Donc quelqu'un qui est atum, donc qui est tamé, il est imperméable à la lumière divine parce qu'il y a une écorce qui empêche Dieu, entre guillemets, de rentrer en lui. Donc, quand il rentre au mikvé, qu'est-ce qui se passe? Cette écorce se dégage de lui, il se dégage de cette écorce et il devient perméable à la lumière divine. Donc il peut accéder à cette grande lumière. Okay. Non, alors c'est faux. Ça, c'est celui qui t'a dit ça, peut-être qu'il n'allait pas selon la chassidoute et la Kabbalah, mais les Mekoubalim disent exactement l'inverse. Okay? C'est très important d'aller de rentrer au mikvé le plus possible, parce qu'il y a une transformation de l'homme qui rentre dans le mikvé, ça lui enlève de toutes les impuretés, c'est très connu et au contraire. Okay. Pardon ? Si tu rentres avant Shabbat, c'est déjà bien. Pour accéder à la lumière du Shabbat, il faut être prêt, et l'une des préparations dit le Harizal dans son livre, okay, que c'est très important de rentrer dans le mikvé, parce que le mikvé te permet d'accéder au niveau du Shabbat dans lequel tu vas rentrer. Et sans le mikvé, tu es un petit peu décalé par rapport au Shabbat. C'est-à-dire, toi, tu te trouves dans un degré, et le Shabbat se trouve à un degré, et tu n'es pas assez pur pour goûter du Shabbat. C'est pas que tu ne peux pas rentrer au Shabbat, c'est que tu perds. Parce que le Shabbat ne pourra pas te pénétrer, t'imprégner autant qu'il aurait dû le faire si tu avais fait le mikvé. Donc tu te punis toi-même en réalité, parce que tu n'es pas assez capable de recevoir, de te remplir, de t'imprégner du Shabbat, parce que tu es un petit peu bouché. Donc si tu vas au mikvé, tu te prépares et tu deviens perméable à la lumière du Shabbat. Okay.
Qu'est-ce qui se passe pour
un guerre. Le guerre, quand il, l'un des processus du guerre, c'est de, justement de rentrer dans le mikvé pour intégrer cette unité de base du départ. Donc à partir du moment où on l'a converti, l'un des passages obligatoires, c'est le mikvé, parce qu'il redevient en fait, il retrouve la ligne de conduite, le cave de sa nation d'Israël qu'un jour il a quitté dans l'histoire. C'est pas par hasard que quand on est sorti d'Égypte, il fallait traverser la mer, c'était le mikvé. C'est-à-dire la traversée de la mer, c'est la conversion en fait du peuple d'Israël pour redevenir leur identité qu'ils avaient perdue, donc ils étaient obligés de rentrer dans Yam Souf.
Okay. Ce que vous dire, en disant qu'il n'y a pas de changement pour l'homme, c'est le niveau à la fille. Pour la femme, il y a un changement.
Tout à fait. Au niveau, c'est pour ça que j'ai bien fait la différence entre la halakha, on n'a aucune obligation hilchatit d'aller au mikvé, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que ça ne fait rien sur l'homme. Et ça, je ne peux pas être d'accord. Parce que ça a une influence sur l'homme, bien entendu pas une influence visible, okay, mais une influence intérieure qui est ô combien plus importante, en tout cas pas moins. Okay.
Juste pour en revenir à la question du fœtus, okay. Je croyais qu'on devait avoir les membres écartés pour pouvoir connaître partout.
D'accord.
La question du fœtus, c'est plutôt la masse.
Non, le fœtus ne touche pas. L'essentiel, c'est ne pas toucher d'autres parties du corps. C'est-à-dire être dans une position en ayant même la bouche ouverte, okay, et pas serrer les dents. Et en fait, il ne faut pas respirer l'eau, mais tu laisses ouvert, il faut que tu sois, que tes lèvres soient libres, et que tu sois tout entier dans une position où il n'y a plus rien qui entre toi et l'eau.
Okay.
C'est un peu sale.
Okay.
De toute façon, tu crois que l'eau ne rentre pas, elle rentre. Alors, il faut rentrer dans un mikvé qui est propre. Okay. Ça, c'est pas interdit par la halakha. Il n'y a pas marqué mikvé égale saleté obligatoire. Il y a des mikvahot qui sont propres. Okay. Et c'est sûr que si tu es un petit peu délicat, il faut que tu cherches un mikvé qui est propre. Et il y en a.
Okay.
Combien de fois il faut se tromper? On est rentré directement dans le mikvé alors que pour l'instant, on est en train de parler de Géoula. Mais vous allez voir que c'est la même chose. Alors, il n'y a là aussi aucune importance, puisque ça dépend de ce que tu veux faire, et selon les kavanot, okay, alors il y a plus ou moins de tvilot. Okay, Baba Saleh faisait tant, le Ben Ishraï faisait tant, et le Baal Shem Tov faisait tant. C'est toi, Yagen Alen, Amen. C'est-à-dire, chacun faisait des kavanot. Si tu fais les kavanot que faisait le Harizal, alors, prochain Gilgul. Okay, tu meurs déjà dans l'eau, parce qu'il y en a tellement que le type, je ne sais pas combien de temps il restait sous l'eau. Mais en fait, les kavanot vont très vite. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de kavanot, chacun selon ses kavanot, mais il n'y a pas une halakha broura et qui tranche à ce sujet. Okay. C'est bon? Tov, on revient. Donc, la geoula, hi a mikve, a metaheret et kol hatemeim. Le Rav ici nous dit que le mikve dont je viens de parler, donnez-lui maintenant un autre nom. La geoula. Geoula égale mikvé. Voilà la nouveauté du Rav. C'est ça le chidouche du Rav. Geoula égale mikvé. Autrement dit, tout ce que je viens de dire concernant le mikvé, c'est valable pour la geoula. Je répète quelques petits détails. La geoula est censée me redonner une unité. une direction, une valeur sûre, un sens, un espoir. Je m'unifie, je redeviens un alors que j'étais éparpillé. Je redeviens pur alors que j'étais impur, donc imperméable à la lumière divine. Et ainsi de suite, vous continuez. Tout ce qu'on vient de dire est valable pour la Géoula. C'est ce que la Géoula offre au peuple d'Israël. Donc, Kol HaTemeim, tous ceux qui ont été bouchés par l'exil, vont s'ouvrir, vont devenir perméables, alors qu'ils étaient imperméables. Ils deviennent maintenant perméables à une lumière qui est beaucoup plus forte, donc la lumière de la Géoula. Hatzeadim shetzoadim likrat haGéoula. Et les pas qui nous amènent à ce mikvé. Comme quand vous allez au mikvé, vous marchez. Eh bien, quand on arrive à la Géoula, ici, comparé au mikvé, les pas qui nous amènent vers cette Géoula, areihem keilu mitkarvim el tahara bebeit hatvila. C'est exactement ce que tu fais quand tu vas au mikvé. C'est-à-dire, tu vas avec la direction de pensée que tu vas maintenant te purifier. Donc, tu y penses. Ce n'est pas que tu vois une porte et tu te dis, tiens, chouette, un mikvé, je rentre. Non, tu es sorti de chez toi en amenant, en apportant du linge propre, des sous-vêtements, une serviette, un shampoing, un savon. Ça veut dire que tu vas avec l'idée de te nettoyer et de rentrer au mikvé. Et donc la même chose, tu dois avoir lorsque tu touches le sujet de la Géoula. Préparez vos vêtements. Qui dit vêtements dit manière de se dévoiler, et pas seulement des sous-vêtements, comme je viens de le dire au niveau physique, mais un vêtement pour l'homme, c'est la manière pour lui de s'exprimer. Quand je porte un vêtement, je dévoile un petit peu qui je suis, tout en voilant une partie de moi. C'est pour ça que le vêtement est important. Selon le vêtement de l'homme, je peux savoir aussi comment il est dans sa tête. Ce n'est pas des choses qui sont anodines. Ne croyez pas que la manière de s'habiller, ça ne veut rien dire. Ça veut dire, ça dit quelque chose. Ça m'enseigne quelque chose sur le propriétaire de ses vêtements. Je vois un petit peu où il en est dans sa tête. Et donc, la même chose, quand je vais vers la Géoula, je me prépare avec des vêtements propres, limpides. Et je me prépare à cette limpidité parce que je veux changer d'étape, je veux monter de ce degré dans lequel je suis maintenant, qui est un petit peu bouché, qui ne me permet pas de voir clairement les choses, et je vais vers quelque chose de beaucoup plus grand. Faites l'expérience, quand vous êtes un petit peu perturbé, que vous ne savez pas trop où vous allez, allez au mikvé. Et vous allez voir que vous allez ressortir de là-bas avec une sérénité, et même au niveau de l'étude, vous allez comprendre des choses que vous n'avez pas compris avant. Ok. Comment choisir ses vêtements? Tu n'as pas trop de cinéma à te faire. En réalité, tu vas t'habiller selon le degré mental dans lequel tu es maintenant. Donc les vêtements extérieurs sont en fait une suite logique de ta mentalité d'aujourd'hui. Mais tu peux, de temps en temps, par des vêtements nouveaux que tu te portes, changer aussi ta manière de voir les choses. C'est-à-dire, si à partir d'aujourd'hui, tu te dis, je vais me mettre, je ne sais pas moi, une chemise blanche, okay, je ne vais plus marcher avec un t-shirt, avec des dessins de je ne sais pas quoi, Popeye, je ne sais pas quoi, okay, ça veut dire que dans ta tête, il peut se passer quelque chose. Je ne dis pas que c'est obligatoire, mais ça peut aider à prendre conscience que tu es dans un autre degré. Tu as changé ta manière de t'habiller. Okay.
Le problème, c'est qu'en France, ça veut dire quelque chose, ici, ça veut dire autre chose.
Tout à fait. On est en train de parler de ce que ça veut dire ici. En Eretz Israël, nous sommes en Eretz Israël, les valeurs sont différentes et il faut se mettre, encore une fois, je ne dis pas, je ne fixe pas ici une halakha que celui qui va avec un t-shirt comme ça, c'est qu'il est moins ou meilleur que l'autre. Je ne parle pas de ça. Mais il y a une certaine action du vêtement sur le propriétaire. Comme il y a une action inverse du propriétaire sur le vêtement. C'est-à-dire dans les deux sens, ça marche. L'un peut influencer l'autre. L'exemple le plus clair, c'est un type qui est en civil. Mettez-lui un uniforme. Et tout de suite, il change d'attitude. Un policier dans la rue qui vient de s'habiller en tenue de policier. 5 minutes avant, il était civil. Il n'avait pas trop la grosse tête. Dès qu'il a l'uniforme, s'il a des grades en plus, il marche dans la rue, il est droit comme ça, il te regarde. Un militaire, pareil, quand vous allez être à l'armée, on va vous donner un uniforme, vous allez sortir avec l'arme, vous n'êtes plus le même, vous allez voir le monde autrement, vous allez marcher comme ça, droit, avec une certaine fierté à l'intérieur. Pourquoi ? Il n'y a rien que le vêtement qui a changé, oui. Mais ça dénote d'un changement aussi d'attitude. Donc le vêtement, il s'appelle Madim, qui est la même racine que le mot Mida, c'est-à-dire les vertus et les mesures de l'homme. Donc Madim égale Mida, c'est la mesure de l'homme. Le vêtement ne fait pas le moine, mais il fait le rabbin. Okay. C'est pour ça qu'on n'est pas chez les moines. Okay. Donc, le vêtement ne fait pas le moine, tu as raison. Et comme on est, Baruch HaShem, loin des moines, okay, donc on a une autre vision.
Okay. Il a raison, par exemple, il y a des gens qui s'habillent... Il y a des habits, on va dire qu'il y a des codes, il y a des gens qui s'habillent...
Je ne parle pas d'un uniforme connu ou reconnu par certains. Je parle d'un degré qui est tsanoua. Je ne vais pas plus loin. Okay. Je parle d'un degré tsanoua qui couvre son propriétaire d'une certaine manière et qui lui permet en fait de pouvoir faire les choses d'une manière correcte. Après, que ce soit un vêtement comme si, comme ça, trois chapeaux, trois barbes, machin, c'est autre chose. Okay. Je ne parle pas de ça maintenant. Okay. Au contraire, je viens vous dire qu'on ne peut pas juger quelqu'un selon son vêtement extérieur. À part si véritablement son vêtement extérieur a dépassé les limites. Okay. Et là, il y a un problème quand même de tzniout ou de contact avec l'autre, si c'est juste pour choquer ou pour montrer des parties qu'on n'a pas le droit de dévoiler normalement. Okay. Parlant des femmes ou autre chose. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a un chapeau et un vêtement noir est plus lié à Dieu que quelqu'un qui a un t-shirt okay, avec une capuche. Ça ne veut rien dire. J'ai pas compris. Oui, mais c'est pas comme s'il n'avait rien fait. On est tous à faire des avérot toute notre vie, et pourtant on essaye de s'améliorer. Le judaïsme, c'est pas blanc ou noir, ou tout ou rien. Il y a aussi des moitiés. Alors ça a un impact, que ça t'ouvre l'esprit pour pouvoir plus voir les degrés que tu ne dois pas refaire comme bêtises. C'est-à-dire quelqu'un qui a été au mikvé, il essaye après le mikvé un petit peu plus de garder sa propreté parce qu'il se dit « j'ai fait un effort de me nettoyer, c'est dommage de retomber encore aussi vite. » Comme quand tu laves ta voiture et que tu as envie qu'elle reste un petit peu propre quelque temps. Si ta mère fait le ménage, elle n'a pas envie qu'on rentre 10 minutes après. Mais quand tu rentres 1 heure après, elle ne te dit plus rien. C'est bizarre, il fallait 10 minutes, 1 heure pour que ce soit propre. Il y a un certain sentiment de « je viens de nettoyer, c'est dommage de ressalir ». D'accord ? Mais c'est très important de garder ça en mémoire. Donc, « Bet HaTevila », c'est la partie du mikvé donc, dans laquelle on rentre. Donc, quand on rentre dans ce mikvé, on descend en fait. On descend vers l'élément liquide, qui est en fait comme une racine de la vie. Et on remonte de là-bas, avec une influence de cette racine, puisque nous avons encore l'eau sur nous. À tel point que même les sages de la Kabbalah vont plus loin dans le détail, et ils se disent, c'est pas bien de se laver après. Garde l'eau du mikvé sur toi. Un petit peu, un petit moment. Maintenant, si tu es un petit peu délicat et tout ça, hein, lave-toi. Okay. Oui. Tout à fait. Tout à fait. C'est un degré qui est obligatoire. C'est-à-dire le passage par un reset, par un zéro, est obligatoire dans tous les pas de notre vie pour remonter une étape plus haut. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chaque fois que vous voulez monter, votre corps manifeste une descente. C'est-à-dire même si je vous regarde maintenant dans un escalier, quand vous voulez monter, vous faites un pas vers le bas. Et après vous montez. C'est comme s'il y avait un élan, comme tu vas sauter. Quand tu vas sauter très haut, qu'est-ce que tu fais? Tu te plies. Presque comme au mikvé. Pour prendre un élan et sauter très haut. Alors quelqu'un qui ne comprend pas, il se dit, mais attends, il veut monter, pourquoi il se plie? Okay. Et alors l'explication, c'est que grâce à cette partie qui précède le saut, qui apparemment va dans le sens inverse, j'ai pris un élan pour remonter plus haut. C'est ce qui se passe avant chaque montée dans notre vie. Et avant la Géoula, nous avons une impression que tout va descendre un petit peu, mais en réalité c'est comme un élan pour remonter plus haut. Botovlim, et donc à l'intérieur de ce mikvé, nous sommes censés rentrer pour faire la tevila. Kol rish eisar Israël. Et qui c'est qui rentre dans ce mikvé? Tous les rechaïm d'Israël. Qu'est-ce que c'est un racha? Hein? Qui fait du bruit? Non, tu as raison, il y a un degré de ra'ash dans le degré racha, c'est bien vu. Okay, il y a aussi sha'ar, ça veut dire il y a une porte, un portail. Mais le racha, c'est des initiales. C'est les initiales de trois mots. Resh, Shin, Ain. Ratson, Shel, Atzmo. Le racha, c'est celui qui s'occupe que de lui-même, c'est un égoïste. Dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, c'est celui qui s'est déconnecté, en fait, de l'Assemblée d'Israël. Il a l'impression qu'il vit pour lui. Même ce qui l'intéresse, en fait, c'est son petit Olam Haba à lui. Il s'en fiche un petit peu de ce qui se passe dans la nation d'Israël. Sa vie à lui, même au niveau religieux, c'est ce qui l'intéresse. Moi, je fais mon truc, j'en ai rien à faire de ce qui se passe à côté. Comme c'est écrit dans la Haggadah de Pessah, je ne vous invente rien du tout. Le fiche hotzi et atzmo min haklal, parce qu'il s'est retiré du tout, Kafar Baïkar, il a en réalité nié l'essentiel. Donc c'est ça le rachat. Hein? Alors il faut savoir exactement comment nous décidons qui est tzaddik et qui ne l'est pas. Bien, c'est pas aussi facile que ça. Bien fait. C'est possible aussi. C'est pour ça que je dis, je n'ai pas donné de réponse ni dans un sens ni dans un autre. Il faut savoir exactement quel les choses, et on ne peut pas juger par rapport aux apparences, mais la définition du rachat, c'est celui qui en réalité n'est pas dans la vie de la nation d'Israël, mais dans sa propre vie à lui tout seul. Et donc, pour lui, c'est très important le mikvé. Pourquoi c'est très important le mikvé? Parce que nous avons dit tout à l'heure que le mikvé nous remet les idées en tête, c'est-à-dire la direction de vie, et ikavu voulait dire se rassembler. Donc il doit obligatoirement revenir à sa nation. Or, on vient de comparer le mikvé à la Géoula, ou la Géoula au mikvé. Donc qu'est-ce que c'est que la Géoula? C'est le retour à la nation, à l'unité de la nation d'Israël. Donc qu'est-ce que c'est que l'exil? C'est la dispersion de cette unité de la nation d'Israël, où chaque juif va vivre en tant que détail à Paris, à Nice et à Marseille. D'accord? Alors que l'unité, donc le mikvé, c'est le retour vers la terre d'Israël. Et ça, c'est le secret. Quel? Tout à fait. D'ailleurs, je ne connais aucune mitzvah pratique. Tout à fait. Mais je ne connais aucune mitzvah individuelle. Est-ce que tu en connais? Et Tilin, c'est une mitzvah individuelle? Si tu n'appartenais pas au clan Israël, est-ce que tu aurais été soumis à cette mitzvah? Donc c'est une mitzvah collective. Un chat n'est pas obligé de mettre des tefillin. Et même si je lui mets, il ne va pas devenir juif. Ni un goy. Je ne veux pas comparer un chat à un goy. Okay? Mais comme un goy n'est pas soumis à cette nation d'Israël, il ne faisait pas partie de cette nation d'Israël, il n'est pas soumis à la mitzvah de tefillin. Donc si je mets des tefillin à un goy, qu'est-ce que je fais? Rien du tout. Rien du tout. Une mitzvah terre à terre. La mitzvah d'aller aux toilettes. C'est un degré qui est l'un des plus élevés. Alors qu'il passe par un degré qui apparemment est très bas. Mais comment tu es arrivé à la conclusion que c'est une mitzvah terre à terre? C'est quelque chose qui est très élevé. Le nettoyage de soi et le tri qui se fait à l'intérieur du corps humain, c'est une machine extraordinaire que Dieu a créée pour nous nettoyer de tout ce qui est en trop dans notre corps. Alors, je ne peux pas considérer que ce soit quelque chose de terre à terre et de petit. C'est quelque chose de très grand qui nécessite d'ailleurs une bénédiction après. Ok, on continue. Donc, tous les Rechaïm d'Israël ont besoin du mikvé. Pourquoi je rentre donc dans le mikvé? Pour retrouver tout simplement ce que j'ai un petit peu oublié, c'est-à-dire le rassemblement et l'unité dans tout ce que je fais. Vers Olim Misham, quand on est descendu, on monte du mikvé, ça vous rappelle quoi? Alia. Okay? Remonter en fait, tu remontes à un niveau de conscience, de vision qui est différente par rapport au niveau que tu avais auparavant. Mekudashim bekdusha eliona veromema. Et donc nous atteignons un degré de kedusha, okay, supérieur et beaucoup plus élevé de ce que j'avais avant. Comme l'alia en Israël, comme une alia d'une manière générale, toute montée dans notre vie, c'est-à-dire toute prise de conscience plus élevée de mon être et de qui je suis et au niveau de quelle nation je m'inscris, me fait monter, me hisse à des degrés qui sont beaucoup plus supérieurs que ce que j'avais jusqu'à maintenant, parce que je me voyais en tant qu'individu à part entière. Et donc j'aurais pu même vivre ma vie tranquillement dans un petit coin en pensant que faire la tefila le matin et manger kasher, ça me suffit. Là, nous prenons conscience de quelque chose de beaucoup plus fort, c'est-à-dire que tous ces mitzvot-là, elles sont tous klaliotes, toutes klaliotes, parce qu'elles sont issues de mon appartenance à la nation d'Israël. Et d'ailleurs, nous le disons lorsque nous allons à la Torah. Baruch ata Hashem Eloheinu Melech Haolam, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, et après, Venatan Lanu Et Torato. C'est-à-dire, pourquoi il m'a donné la Torah? Parce que je suis d'abord un peuple. Et qu'il m'a choisi en tant que peuple, c'est pour ça que je reçois la Torah. Pas l'inversement. C'est pas parce que je fais la Torah que je vais devenir un peuple. D'accord? Toutes les tfilotes qu'on fait quand on monte à la Torah, pour lire la Torah. Dans les Birkot HaShachar aussi. Ken? C'est un degré qui n'est pas aussi simple que ça d'ailleurs, parce que nous avons une interdiction de sortir d'Eretz Israël, si ce n'est que pour trois choses. Ken? C'est méphorage dans le Rambam. On a le droit de sortir d'Eretz Israël que pour trois choses, donc on n'a même pas le droit de sortir pour aller en vacances. À part si pendant ces vacances-là, tu vas enseigner la Torah à un public. Donc fais en sorte, quand tu vas en France, de faire un cours. Pour ne pas que tu tombes dans l'interdiction de sortir d'Eretz Israël.
Mais c'est pas une mitzvah aussi de visiter le monde que Hachem a créé?
Non. Non. Okay? Non. Il n'y a aucune mitzvah là-dedans. Il y a une mitzvah de remercier Dieu pour les belles choses. Mais les sages nous disent qu'en Eretz Israël, nous avons tout en miniature. C'est-à-dire, tiens un coin en Eretz Israël, même si c'est 2 km carrés du Canada. Tiens un coin en Israël, même si c'est 100 mètres carrés du Japon. Tu as tout ce qu'il y a dans le monde se trouve en petit miniature en Israël. Pourquoi? Parce que la terre tout entière a été créée par la terre d'Israël. Et donc, c'est ici que se trouvent tous les points de racine qui sont devenus Japon, États-Unis, Maroc et Tunisie. Mais ils sont tous ici. Shlomo HaMelech d'ailleurs connaissait ce secret et il plantait à Jérusalem des pousses spéciales qui poussaient après en Afrique. C'est-à-dire il connaissait la racine donc de toutes les ramifications, de tous les canaux qui sont sous la terre pour savoir à quelle terre appartenait quel point d'ici. C'est comme si je te disais maintenant, si j'appuie ici, maintenant au Canada, quelqu'un va se toucher la nuque, parce que tu as touché ici la racine. Comme dans le corps humain, vous avez des points d'acupuncture, c'est la même chose. La terre d'Israël contient la racine de tous les points d'acupuncture du monde entier.
Oui, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas visiter en grand les choses.
Tu as le droit de penser ce que tu veux, mais le Rambam dit une halakha, et c'est comme ça que la halakha est fixée.
Il n'y a pas d'autres avis, c'est ça que je veux dire. Il doit y avoir d'autres avis aussi sur la question.
Non, il n'y a pas d'autre avis. Il n'y a aucun autre avis. Il n'y a aucun autre avis. Les trois mitzvot pour lesquels on peut sortir, les trois degrés pour lesquels on peut sortir d'Israël, ne sont que trois, et ni plus ni moins, et en plus de ça, à condition de revenir. Lesquelles sont-elles? Sortir pour épouser une femme dans un endroit où il n'y en a pas. Là, ce n'est pas le cas. Vous pouvez trouver des femmes, Baruch HaShem, c'est ici qu'il faut les trouver. Mais bon, si vous avez un shidour, vous avez le droit. Deuxièmement, pour travailler, pour revenir en fait ensuite, parce que le tenaille c'est de revenir, s'il y a une condition, c'est pas, tu peux pas sortir comme ça. Mais
si je gagne pas assez par exemple, je dois...
Non, tu peux faire des allers-retours pour revenir, mais à condition de revenir, que ton ta base soit ici. Et la troisième chose, c'est pour l'enseignement de la Torah, comme j'ai dit. Non.
Il y a plein d'histoires pour toi. Pour travailler, normalement, c'est vraiment... Enfin, il donnait des exemples sur les grandes sécheresses.
Nahon, c'est pour ça que j'ai dit, ça c'est klali, c'est général ce que je suis en train de vous dire. Il faut rentrer dans les détails. Mais ce n'est que trois et pas plus. C'est là. Je continue. Sheken tvila. Ben im mechaven la. Ben im en mechaven la alta hatvila. Là, il y a une halakha quand même qui est un peu bizarre, mais qui est intéressante. Quelqu'un qui marche et qu'on pousse, il est tout nu, et qu'on pousse dans le mikvé. Est-ce que le mikvé est valable ou pas? Alors, dans la halakha du mikvé, c'est que oui. C'est-à-dire, à partir du moment où l'eau l'a enveloppé totalement, qu'il en est sorti, il a fait un mikvé malgré lui, le mikvé va influencer sur son être.
Il ne doit pas faire cette fois...
Non. Qu'est-ce que ça veut dire, d'après notre rapprochement? Que même si quelqu'un vient en Eretz Israël et qui n'a pas encore cette mentalité de comprendre les choses, la terre d'Israël, « Vekiper admato amo », je vous cite un verset, la terre d'Israël fait sur lui un effet de kapara, c'est-à-dire de nettoyage total de l'être. Vekiper admato amo, la terre fait un tikkun, une réparation de l'être qui marche dessus. Vous comprenez? Même si vous êtes venu involontairement, vous n'avez pas compris pourquoi vous êtes là, la terre commence déjà à faire son travail à partir du moment où tu marches dessus. Noten neshama la olchim alea. Nefesh la olchim alea.
On a des personnes qui font un rejet, par exemple. Quel?
Alors, des personnes font un rejet, il faut savoir si c'est elles qui font un rejet ou si c'est la terre qui les rejette. Le rejet n'est pas aussi clair que ça. Alors il y a un degré des deux côtés, c'est que la mentalité de l'homme n'est pas arrivée à la compréhension de son identité encore, donc il ne trouve pas encore sa racine. Ce qu'on a dit la semaine dernière, que quelqu'un qui est normalement constitué, qui est arrivé à une limpidité, il est obligé que cette terre trouve grâce à ses yeux, même s'il est difficile d'y vivre. Je ne parle pas maintenant de difficulté de vivre. On sait que c'est difficile de vivre ici, mais est-ce que malgré tout cette terre t'attire et tu comprends que c'est ici que ça se passe ou pas? Si cette terre ne trouve pas grâce à tes yeux, c'est qu'il y a un problème encore d'imperméabilité, tu n'as pas encore compris. Donc tu es encore un petit peu trop exilé dans ton mental. Et il faut faire un nettoyage par l'étude, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. L'étude nettoie, c'est comme un mikvé. Tout à l'heure nous avons dit que la terre comme un mikvé, la Géoula est comme un mikvé, bien la Torah est aussi un mikvé. Quand j'étudie la Torah est comparée à l'eau, en maim et la Torah, la même chose, quand j'étudie la Torah, je rentre dans le mikvé de cette certitude divine qui est de plus en plus certaine en moi, donc je réalise de plus en plus le divin. Okay.
Comment c'est vrai qu'il vient dégoûter l'étude?
Qui? Qui vient dégoûter de l'étude, justement, parce que, pour plusieurs raisons. Comment est-ce qu'on peut arriver à un dégoût de l'étude? Ou parce que tu as étudié d'une manière qui ne correspond pas au degré de ta neshama, c'est-à-dire qu'on t'a donné un style d'étude qui n'est pas correspondant à ce que tu es. Donc peut-être que toi, tu as une nefesh, une âme artiste, et on t'a donné une Torah trop cartésienne. C'est-à-dire on t'a rentré dans un degré de halakha, de gemara, tellement cartésien, que tu commences à te dire, c'est lui, il y a avec le taureau du voisin qui est encore né, le taureau de l'autre, il est rentré dans ta tête. Tu te dis, bah, qu'est-ce que c'est que cette Torah? Moi, c'est pas ça que je suis venu étudier, je croyais que c'était des choses plus profondes. Un type comme ça ne peut pas tout de suite rentrer dans ce genre de sujet, et on est obligé de lui donner des sujets qui touchent un petit peu son âme, qui caressent un petit peu sa neshama. Et donc, il pourra arriver à un certain dégoût si la Torah ne correspond pas à ce qu'il veut. Inversement, si c'est quelqu'un de très cartésien, tu ne peux pas non plus donner des choses qui planent complètement, et donc il faut s'adapter. D'une manière générale, la génération pré-messianique est une génération qui demande une Torah beaucoup plus profonde. Et donc, il faut savoir que les enseignants doivent s'adapter aux nouveaux élèves de la génération messianique et leur offrir la Torah qu'ils attendent intuitivement. Et aujourd'hui, nous voyons que ce qui attire la majorité du monde, c'est la Torah profonde et secrète, même si ce sont des gens qui n'ont pas encore étudié la partie première de la Torah. Pourquoi ils sont attirés par là? Parce que leur neshama demande cette Torah. De deux choses l'une, ou tu les rejettes, ou tu les acceptes, et tout doucement ils arriveront aussi au reste. Mais si tu les rejettes, tu prends le risque que ces personnes aillent voir ailleurs. Ok.
Si une âme d'artiste nous dit.
Si quoi?
Si une âme d'artiste.
Si c'est une âme d'artiste.
Si tu veux quelque chose de
plus, des choses
fortes. Ok. Ben, je vois pas en quoi on lui donne tout de suite des choses très très fortes.
On va pas lui donner tout de suite les choses très très fortes. Il faut lui donner quelque chose que son âme veut. Quand tu vas manger au restaurant, tu choisis quelque chose ou le type il te dit non, c'est moi qui décide? Pourquoi tu choisis? Ah, il te propose, il te donne un menu. D'accord? C'est la même chose.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut le...
Pas du tout.
Ça peut...
Il y a fait, c'est pour ça qu'il faut... C'est pour ça qu'il faut un maître adéquat, mais tu ne peux pas empêcher l'homme d'aller selon ce qu'il veut. Comment s'appelle la Torah? Shulchan Aruch. Une table dressée. Un restaurant. Dans un restaurant, tu manges ce que tu as envie. On ne t'impose pas une nourriture.
Il
y a fait. C'est ce que je t'ai dit. C'est ce que je t'ai dit. Jusqu'à la dernière génération, les choses que tu dis sont vraies. Mais il faut savoir s'adapter, être intelligent et savoir ce qui se passe. Okay? Il y a des règles pour éduquer un enfant. Il y a des règles. Mais si je vois que mon enfant est spécial, est-ce que je vais me dire non, je suis bloqué, moi je suis strict, j'ai les règles, c'est fini, je suis dans un livre. Ou alors je suis un papa intelligent et je me dis mais attends, cet enfant, il a quand même une âme spéciale. Le Harizal, il fallait décoder qu'il ait une âme spéciale. Eh bien, le Harizal, il est mort à quel âge? À 37 ans. Alors, d'après ta technique, il n'aurait jamais ouvert un livre de Kabbalah. On est d'accord. Puisqu'il fallait qu'ils attendent 40 ans. Or, c'est le papa de tous les kabbalistes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un enfant spécial. Et pour un enfant spécial, il faut savoir aussi donner une Torah spéciale. Alors, la génération dans laquelle nous sommes est une génération spéciale. C'est un enfant spécial. Nous sommes des enfants spéciaux dans la dernière génération. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut sauter n'importe quoi et faire n'importe quoi. Pas du tout. Mais il faut quand même aller dans l'écoute. Il faut écouter ce que la génération demande, ce qu'elle a besoin. Et moi, mon rôle, c'est de lui donner avec des kelim structurés, comme nous faisons Bezrat Hashem dans le Machon, c'est-à-dire ne pas jeter n'importe quoi, okay, mais donner d'une manière structurée quand même quelque chose qui va apaiser cette demande, parce que si tu as soif de quelque chose et qu'on ne te le donne pas, tu vas tout casser pour recevoir cette chose-là.
Non, mais il faut d'abord voir cette personne, si elle est apte
à... Tout à fait, tout à fait. Alors, d'une manière générale, je t'ai répondu, la génération est apte, c'est ce que nous dévoilent les kabbalistes, c'est que la génération d'aujourd'hui est apte, d'une manière générale, et dans ce général, il faut aussi savoir à qui on s'adresse ponctuellement, okay, pour ne pas tomber dans l'excès de quoi que ce soit, mais pas tomber non plus dans la fermeture. Il faut être quelqu'un d'équilibré. C'est pas tout ou rien, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ni blanc ni noir. Il y a des gris clairs et des gris foncés. C'est bon? Ok. Donc, la tevila est très importante, même pour quelqu'un qui est rentré et qui n'a pas fait exprès de rentrer. Malgré lui, il est pur. Il en ressort pur. Menatzrim anu al habinyan hanedar shel hageula. Non, nous sommes en train de menatzrim. Qu'est-ce que ça veut dire menatzrim? De gagner ou de jouer à un chef d'orchestre. Menatzer. Menatzer, c'est un chef d'orchestre. Donc nous sommes en train d'orchestrer sur cette construction qui s'appelle la geula, qui est une construction extraordinaire, nedar. Ou mitangim al yofio vehadar geono. Et nous sommes en train de nous délecter, de prendre plaisir de toute la beauté qui se trouve à l'intérieur de cette geoula et de la splendeur qui s'en dégage. Ou beichud mimisgav gedushato, et surtout de la sainteté qui sort de là. Romemut uz tifarto venitzriuto. Cette... Vous voyez que le langage ressemble un petit peu au Rav Kook. Okay, c'est son élève. Et on retrouve le Rav Kook, okay, dans sa manière de dévoiler les choses. Donc, on se délecte de la supériorité, de la puissance, de la splendeur et de l'éternité. Tout ceci se trouve où? Dans la Géoula. Et tout ceci, bien que les constructeurs, les maçons, qui sont des gens simples, ne savent même pas ce qu'ils sont en train de construire. Vous êtes d'accord? Ça veut dire que le Beth Amikdash à Jérusalem, par qui il a été construit? Par des gens simples, des maçons. On a cherché des maçons dans le journal, on a fait une pub. Qui connaît le travail du béton? Et des gens sont venus. Tu crois qu'on leur a fait un test? Est-ce que tu as fait de la yeshiva? Combien d'années? Alors que ces gens-là allaient construire le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Mais comment tu construis le Saint des Saints? Tu connais rien. Vous comprenez le parallèle? Dans notre Géoula, il peut y avoir une génération qui comprend rien du tout à ce qui se passe. Et nous sommes en train, nous-mêmes, de construire la Géoula malgré nous. Comme ces maçons qui s'arrêtaient pour manger une baguette à l'intérieur du Kodesh HaKodashim avant que le travail soit terminé. Vous avez compris le parallèle? C'est très important. Autrement dit, la Géoula va se faire aujourd'hui, et elle se fait comme ça aujourd'hui, par des gens qui n'ont peut-être pas conscience de ce qu'ils sont en train de faire. L'État d'Israël a été monté par des gens qui n'étaient pas conscients peut-être de ce qu'ils se faisaient faire, qui n'étaient pas conscients que c'était un processus de libération de Géoula divine, mais qui ont fait ce qu'ils avaient fait. Tout en faisant des bêtises toute la journée peut-être, mais ils étaient des instruments du divin pour construire les premières étapes de notre délivrance finale. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez, l'exemple ici est très fort. Okay, on n'a pas choisi des maçons, Talmidei Chachamim, Rabbanim Rashiim d'Israël. Ce sont des maçons simples, des gens simples. Et inam makirim et hadrad gdulato, qui ne comprennent rien du tout au Kodesh HaKodashim. Ils ne savent même pas de quoi tu leur parles. Il faut juste leur donner des mesures, c'est tout. Où est-ce qu'il faut monter un mur? Dis-moi, je monte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rentrer chez moi ce soir. Mais tu sais ce que tu as construit aujourd'hui, le Kodesh HaKodashim? Ah, arrête, moi, j'en ai rien à faire. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, moi, Kodesh HaKodashim. Paye-moi ce que j'ai travaillé. J'ai monté un mur, c'est tout. Regardez le décalage entre la mentalité de celui qui construit, qui ne comprend rien du tout, et de l'objet qu'il vient de construire, qui va servir à l'union des mondes. Comprenez? C'est extraordinaire. Becholzot, donc malgré cette ignorance de ces gens-là, enzepogem, ça n'enlève rien du tout, ça ne fait même pas de dégâts. Bashlemut habinyan, dans l'entité de la construction du Beth Amikdash. Donc ni dans la construction de la rédemption de la Géoula. Ça n'entache pas la Géoula. C'est pas parce que ça a été fait par des gens qui n'ont rien compris au sujet que toi, tu ne devras pas dire le Hallel le jour de Yom HaAtzmaut. En disant, ouais, mais regarde, ça a été fait par des gens qui ne sont pas religieux. La réponse, c'est même le Beth Amikdash a été construit par des gens qui ne comprenaient rien. Ken, il y avait une question d'abord. Ben vadaï. Même les gens les plus simples font partie intégrante de la Géoula. Bevadaï, tout à fait, tout à fait. Vous êtes participants, malgré vous, à la rédemption finale de Am Israël. Et grâce à vous, malgré vous, grâce à vous, nous sommes là où nous sommes. Parce qu'Akadosh Baruch Hu vous a utilisé, sans votre savoir peut-être, même quand vous étiez anti, vous avez été des acteurs actifs dans la Géoula. Ken.
Il y a une intelligence interne quand on travaille dans un mur, par exemple.
Oui. Eh bien, on leur donne l'intelligence interne du mur, c'est tout. Qu'est-ce qu'il faut qu'il soit? De quelle qualité il doit être?
Voilà, mais ça en lien avec le... C'est pas pour rien que le Kodesh HaKodashim, c'est dans... ça avec les murs. Même s'ils ne comprennent pas le but ultime, il y a une intelligence dans ce qu'ils
oui, mais tu es bien d'accord que l'intelligence ultime est tellement loin de l'intelligence du maçon qui, lui, on lui a dit de monter un mur de telle manière que le décalage est bichlal dans un autre monde. Il y a un décalage énorme entre les deux. Jamais le maçon simple va comprendre ce qui va se passer là-bas. Puisque même la construction des éléments qui vont être là-bas ne sont pas de la mesure. C'est-à-dire, il y a un autre miracle que j'ai omis de dire ici. C'est que Lorsque tu rentres la table avec les deux chérubins dans ce lieu de Kodesh HaKodashim, la mesure de là au mur et la mesure de l'extrémité à l'autre mur, c'est la totalité de la pièce. C'est-à-dire que la table en question avec les deux chérubins, c'est comme si elle tenait dans un espace qui n'en est pas un. Exemple, si de là-bas à là-bas il y avait 10 mètres, de l'extrémité il y avait 5 mètres, et de l'autre extrémité il y avait 5 mètres. Alors où se trouve la table? Nulle part. C'était quelque chose incompréhensible, et les sages nous disent que il y avait un degré qui n'est pas de la Mida. Il n'y avait pas de mesure. C'était un miracle dans un monde matériel. C'est impossible à comprendre. Et ça, c'est très loin de ce que le simple maçon peut imaginer quand il est en train de construire son petit mur. Okay. Et le peintre qui va peindre ce mur. C'est la même chose au niveau de ce que j'ai dit, donc du parallèle. Donc, des gens ont construit cet état, sont des maçons de la Géoula, sont les maçonniers de la Géoula, tout en étant des ignorants de ce qu'ils sont en train de faire. Et ça ne change rien du tout, ça n'entache en rien du tout le processus. Ça n'entache en rien du tout le processus qui amène à l'élaboration de ce qui a été désiré par Akadosh Baruch Hu. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu utilise des gens et des niveaux que toi, l'homme, tu te dises pas possible que ça passe par des gens aussi ignorants et par des gens que tu considères toi et que tu désignes toi comme étant des Rechaï. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, c'est avec eux aussi qu'il élabore son dévoilement et sa rédemption. Et nous, qui nous sommes, pour dire à Akadosh Baruch Hu, tu ne sais pas ce que tu fais, tu t'es trompé. Et la preuve que tu t'es trompé, c'est que je ne dirai pas le Hallel le jour de Yom HaAtzmaout. Car toi, Dieu, tu ne sais pas ce que tu fais. Excuse-moi. Mais qui nous sommes pour parler ainsi? Quel?
Vous avez dit que c'était les maçons du premier temps?
Quel?
Vous avez quand même une... Enfin, ce qu'on prenait, c'était quand même les...
Non, 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 non. Ça, c'est marqué pour le temple du désert. Betzalel. Betzalel haya yodea Betzalel et tsaref otiot shenivreu baem shamayim ba'aretz. Betzalel connaissait la combinaison des lettres et des mots qui construisaient avec lesquels Dieu a créé le monde. Mais ce n'est plus le cas après à Jérusalem dans le temple définitif.
Il n'y a pas des gens qui voulaient construire, mais c'était un maçon, ils ne pouvaient pas aller construire le Kodesh
HaKodashim. Non, il faut des gens qui sont du métier, c'est tout. Il faut des gens du métier. Quand tu vas construire une route en Eretz Israël, qui c'est qui a construit cette route? Okay. C'est des gens simples qui sont peut-être même pas okay, de chez nous. Et tu veux que je te donne un chidouche? La route qu'ils ont construite, c'est peut-être la route qui va amener le Mashiach. Il va rouler dessus quand il sortira de sa voiture avec son chauffeur. Alors, il a utilisé la route d'un maçon tout simple qui s'est levé la nuit et qui insultait pendant qu'il travaillait. Tu comprends le décalage? Et ça, c'est le secret de notre Géoula. Ne vous fiez pas aux apparences. Ne dites pas à Kadosh Baruch Hu comment il doit mener sa délivrance. Vous savez beaucoup moins que lui. Nous savons beaucoup moins que lui. Il faut qu'on respecte ce qu'Akadosh Baruch Hu décide. C'est sûr qu'on fait de notre mieux, mais Akadosh Baruch Hu a sa manière d'amener la Géoula, comme dit le verset, « Me'ar baruchot bo'y aruach » Le souffle divin va venir de toutes les directions possibles. Ce n'est pas à toi de diriger la direction qu'Akadosh Baruch Hu a de faire sa Géoula. Un petit peu d'humilité ne fait de mal à personne. Toda Rabba.